Transistor se déplace à la maison des minéraux comme un grand pèlerinage odieux. Caillou, les amoureux des roches et des strates, se retrouvent à la maison des minéraux pendant un week-end. Sur place, nous retrouvons tout un panel d'activités ludiques et festives autour des sciences de la Terre. Et parmi tout ce beau monde, Transistor, votre radio locale, installe son studio mobile et va se poser pendant une petite heure pour parler Caillou et monde de la recherche. Je ne suis pas tout seul pour animer cette émission, je suis avec Agnès. Bonjour Agnès.
Bonjour Pierre-Yves.
Nos trois invités sont chercheuses en sciences de la Terre, ou géologie si vous préférez. Nous serons avec Émilie Bruand, Lorraine Tual et Amandine Mijon. Chacune a son parcours et ses sujets d'études. Et durant une heure, donc, nous tenterons de découvrir les coulisses de la recherche et de répondre à de formidables questions. À quoi ça sert la géologie et quels sont les grands mystères de la Terre qu'il faut résoudre? Voilà pour le programme. Et pour ce début d'émission, puisqu'il faut bien commencer quelque part, débutons par découvrir nos invités, Agnès.
Oui, bien sûr. Commençons par un petit tour de table, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut commencer par la scientifique d'ici, quoi, de local, quoi, c'est-à-dire Lorraine Tual. Pour qui travaillez-vous en ce moment et sur quoi vous travaillez aussi? C'est quoi votre sujet?
Bonjour. Alors, c'est une bonne question.
Il y aura que des bonnes questions.
Ouais. Alors en ce moment, je viens juste de commencer un nouveau sujet pour travailler avec Émilie Bruand. Mais jusqu'à maintenant, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de reconstruire les chaînes de montagnes en utilisant des minéraux spéciaux, essayer de retracer un peu leur histoire, ce qu'ils veulent nous raconter, et essayer de parler cailloux pour de vrai. Et d'essayer de reconstruire même des histoires de chaînes de montagnes qui n'existent plus aujourd'hui. Et en ce moment, je travaille beaucoup sur des cailloux du Finistère qui ont plein de choses à raconter. Voilà.
Très bien. Et donc, Émilie, bonjour Émilie Bruand.
Bonjour.
Et alors, en ce moment, vous travaillez sur quoi?
Donc, moi, je suis chargée de recherche au CNRS et ma spécialité, c'est celle de Lorraine également. Donc, j'étudie les minéraux qui sont dans les roches qui font la croûte terrestre sur laquelle on se déplace, nous. Et en l'occurrence, surtout sur la terre ancienne, donc tout ce qui est plus vieux que 2,5 milliards d'années. Donc, entre 2,5 et 4,4 milliards d'années. Et ce que j'essaie de retrouver, c'est d'aller lire ce que peuvent nous dire ces petits minéraux sur vraiment les débuts, les premiers continents sur Terre, comment ils sont formés, et quand est-ce qu'on a pu... est-ce qu'on peut enregistrer dans ces minéraux les débuts, et c'est des questions qui se posent encore, de l'initiation de la tectonique des plaques. Aujourd'hui, on a des mouvements de plaques qui font que notre Terre est active. On le voit par le volcanisme, les séismes, mais c'était pas forcément le cas il y a 4 milliards d'années. Donc l'idée, c'est d'aller retracer cette histoire grâce à ces minéraux un peu spéciaux. Voilà.
Du Finistère ou...
Finistère, et alors, dans le Finistère, il n'y a pas des... Il n'y a pas des roches si vieilles que ça, donc c'est beaucoup sur ce qu'on appelle des cratons. Donc on en a en Afrique du Sud, au Canada.
C'est quoi un craton?
Un craton, c'est un terrain ancien. Donc c'est un terrain qui va avoir plus de 2,5 milliards d'années, qui est très stabilisé. Et on en a que des pelaires sur la Terre. Et en l'occurrence, on n'en a pas du tout en France. Les seuls terrains, on va dire, qui sont un craton qu'on appelle archéen, donc plus vieux que 2,5 milliards d'années.
Alors archéen, c'est très vieux.
Voilà, archéen, faut se dire, c'est entre 4 milliards d'années, parce qu'en fait, la période 4,5, 4 milliards d'années, qui est la très 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 vieille, elle s'appelle l'Adéen. Et après, entre 4 milliards d'années et 2,5 milliards d'années, ça s'appelle l'Archéen.
Ouais, donc si on a une machine à remonter dans le temps, faut surtout pas se pointer sur ces périodes-là.
Non, c'est un peu hostile. et donc, du coup, ces cratons archéens, il y en a un en Europe, et c'est le craton de Karelia en Finlande, voilà, dans le nord de l'Europe. Mais sinon, nos roches ici sont bien plus jeunes à l'échelle géologique.
Super, merci.
Et on continue avec Amandine.
Et donc voilà, Amandine, sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Bonjour.
Bonjour.
Du coup, moi, je travaille un petit peu comme Émilie, mais par contre sur des processus qui sont plus de surface. Et je vais regarder par exemple, surtout mes questions autour de l'oxygène. Est-ce qu'il y avait de l'oxygène à l'archéen ? Parce qu'en effet, on a parlé un peu d'hostilité au niveau de cette période, et entre autres, il n'y avait pas du tout d'oxygène, ou peut-être, mais en tout cas, on n'a pas forcément d'exemple pour le moment. Et je travaille sur des cratons, donc surtout en Afrique du Sud et aussi un petit peu au Canada.
Voilà. Donc on voyage avec quand on est scientifique apparemment.
Mais ça tombe bien parce que c'est une de nos questions qui vient, c'est justement sur vos parcours scientifiques. Là les cratons ils sont loin, on n'en a pas ici. Ça veut dire que vous avez dû beaucoup bouger durant votre parcours.
C'est Lorraine. oui, on travaille alors soit... pour notre travail de tous les jours, pour aller chercher ces cailloux, mais aussi sur notre parcours, par exemple, pour apprendre des nouvelles choses dans d'autres universités partout. Moi, j'avais fait mon master à Rennes, pas très loin. Ensuite, j'ai fait une thèse, donc un doctorat, au sud de la Suède, dans une ville qui s'appelle Lund. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un postdoc, c'est le travail de chercheur junior, j'ai fait ça à Stockholm.
Sous forme de contrat court, quoi, c'est ça l'idée.
C'est ça. Et donc ça, c'était à Stockholm. Ensuite, je suis partie faire un autre postdoc au Canada, à Vancouver. Et enfin, tout ça, ça faisait quand même déjà beaucoup d'années. Et puis ensuite, voilà, je suis retournée à Plouzané, revenir à la maison comme un saumon. Voilà.
À l'IEM.
Je pense que, bien sûr, oui.
À l'Institut voilà. Universitaire Européen.
Exactement.
De la mer.
Mais on continue à voyager beaucoup puisqu'il faut aller échantillonner ces roches et on va beaucoup à des conférences un peu partout. Donc, c'est vrai qu'on voyage beaucoup dans ce métier.
Et vous, Émilie, vous voyagez aussi ?
Alors, moi, je sais qu'en fait, avec Lorraine, on a un peu un parcours similaire dans le sens où on n'a pas forcément fait notre thèse en France. Donc, moi, j'ai aussi fait ma thèse à l'étranger, en Autriche. Voilà. Et c'était sur la formation de chaînes de montagne, mais en Alaska. Donc, j'avais un sujet qui était, on va dire, qui était financé en Autriche, c'est souvent comme ça, et pour du terrain en Alaska. Voilà. Et après, je suis allée en post-doc plusieurs années, 5 ans, en Angleterre. Dans différentes universités, pareil, avant de revenir en post-doc en France et après de passer les concours et d'avoir un poste ici, enfin à Clermont-Ferrand. J'étais 5 ans à Clermont-Ferrand au laboratoire Magma et Volcan avant de venir ici à 2 ans à l'IUM, au laboratoire Géocéan.
Ah, et Amandine, pour vous, c'était quoi votre...
Alors, du coup, moi, je suis en tout début de parcours comparé à Lorraine ou à Émilie, parce que je suis actuellement en deuxième année de thèse, donc je suis toujours en train de faire mon doctorat. Et avant ça, j'avais fait donc ma licence à Clermont-Ferrand, entre Clermont-Ferrand et l'université de Leeds en Angleterre, parce que j'ai pu faire un Erasmus là-bas. Et ensuite, j'ai décidé pour le master de venir à Brest, parce que c'était ce qui m'intéressait, en fait, les sujets de recherche et tout. Et j'ai eu l'occasion donc de continuer en thèse au laboratoire Géo-Océan sous la direction de Stéphane Lalonde et Pierre Bonneau.
Et moi, j'ai une question qui me taraude.
Vas-y.
C'est comment arrive-t-on à la géologie ? Parce que la géologie, c'est pas l'ours polaire qu'on veut sauver. Les cailloux, c'est un peu... C'est peut-être froid aussi, comme un iceberg. Mais je veux dire, voilà, c'est pas très vivant, si ? Comment on y arrive, Amandine ?
Alors, dans mon cas, je pense que beaucoup d'enfants sont intéressés par les cailloux quand ils sont tout petits, où on va avoir tendance à tous les ramasser, les mettre dans nos poches et en faire des petits tas une fois qu'on arrive à la maison, ou alors les exposer, nos grandes trouvailles à nos parents, etc. Ma maman, elle est passionnée par les fossiles, donc je pense que j'ai un peu récupéré ça d'elle. Et juste, en fait, comme si j'avais jamais grandi, et j'ai toujours été intéressée par ces cailloux. Et juste, ça a grandi parce que, au passage, j'ai appris de nouvelles choses et on pouvait raconter toute une histoire en étudiant ces cailloux. J'adore l'histoire et c'était l'histoire et la science. Donc, en fait, c'était je trouve un complément des deux de continuer en géologie.
Et vous, Émilie ?
En moi, je pense que c'est plutôt l'approche naturaliste, parce qu'en fait, c'est l'idée de regarder autour de soi comment se forment les choses. Souvent, ceux qui aiment la géologie, ils aiment la biologie également. Et j'ai eu surtout une super prof de 5e de biologie qui adorait la géologie, qui nous a fait aller en voyage scolaire à Naples, aller sur un volcan actif qui est le Vésuve. Et en fait, voilà, pour le commun des mortels, le volcanisme, c'est quand même assez impressionnant et c'est de la géologie, hein, c'est du caillou partiellement fondu qui est fondu.
C'est la partie un peu spectaculaire de la géologie.
Et souvent, on entre par ce spectre ou alors par le spectre des dinosaures. Souvent, voilà. Et moi, c'est plus l'aspect vraiment volcanisme. Et donc, c'est pour ça qu'aussi j'étais, en effet, allée à Clermont-Ferrand parce que, on a une chaîne assez impressionnante de volcans là-bas qui est très visible et très belle. Et après, suivant ses affinités, et je pense les profs et les scientifiques qu'on va rencontrer sur notre parcours, on développe des affinités pour les minéraux. Donc, nous, on est plus devenus geeks de minéraux, voilà. Mais par contre, on peut, de nouveau, c'est raconter une histoire. En fait, c'est vraiment l'histoire de retrouver des traces de choses perdues, mais qui sont encore enfermées dans ces roches, dans ces minéraux.
Et vous, Lorraine, est-ce que grandir à Crozon, ça facilite l'amour des cailloux ?
Bah oui, exactement. En fait, moi, c'est pareil. Je pourrais même dire que j'ai une réponse qui est le condensé exact de ce que Amandine et Émilie nous ont dit. Et en plus, le fait d'avoir grandi dans ce géoparc, ça, c'est sûr que ça passionne énormément. On se demande, quand on va à la plage, ce que veulent dire ces falaises, pourquoi les roches sont plissées, pourquoi les cailloux ont des couleurs différentes. On a envie de comprendre et quand en plus on nous explique qu'il y a une vraie histoire derrière, c'est absolument fascinant. Et puis je pense que l'éducation joue énormément, comme par exemple Émilie disait. Moi c'est pareil, j'ai eu des parents passionnés, une grande sœur qui était aussi très enthousiaste de géologie, avec qui je faisais des plans pour devenir volcanologue quand je serais plus grande, donc quand j'étais toute petite. Et puis j'ai rencontré des professeurs même plus tard. Moi, je ne savais pas que j'allais travailler sur ces minéraux, ce genre de roches. Tout ça, ça s'est fait quand j'étais à Rennes en master, enfin en licence, tout très très tôt dans mon cursus, en rencontrant des gens passionnants qui me proposaient d'aller chercher des cailloux sur le terrain en Grèce ou regarder des cailloux sous le microscope. Donc ça fait beaucoup, les gens qu'on rencontre, les passions qui se partagent, c'est vraiment quelque chose de très important.
Pour toutes les trois, c'est des souvenirs qui restent accrochés à l'enfance. Est-ce que justement la découverte de la géologie sous le prisme universitaire, est-ce que ça n'a pas un peu piqué ? Est-ce que ça n'a pas justement un petit peu, vous avez pas un petit peu déchanté ? Ou est-ce que au contraire, finalement, ça a confirmé, parce qu'on passe d'un truc à un autre, quoi.
Je pense en fait les chercheurs, quand on voit dans les labos, c'est encore des grands enfants. C'est peut-être des enfants qui sont pas complètement devenus adultes, dans le sens où il faut garder une créativité certaine si on veut justement continuer de s'émerveiller, d'aller fouiller, rechercher. On est chercheur, donc notre idée, c'est de tout le temps chercher. On trouve pas toujours, mais quand on trouve, alors là, c'est très joli. Après, il y a différents aspects de la recherche. En effet, il n'y a pas que le en définitive sur une année. Je vais vous dire, je vais 2 semaines sur le terrain. Le terrain est une chose qui stimule, que tout le monde pense
c'est
être notre corps de métier,
c'est
mais en définitive, c'est pas tant que ça. Alors il y a deux géologues qui vont beaucoup plus sur le terrain, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup devant l'ordinateur aussi parce qu'on a plein de tâches différentes et dans les labos à faire fonctionner des instruments pour avoir des données pour justement pouvoir raconter nos histoires et en fait cette partie qui nous attire quand on est enfant, donc plus le terrain, elle représente en définitive seulement une petite partie. Donc en effet, si on déchante le long de notre parcours, on s'en rend compte vite, on arrête aussi de faire de la recherche, quoi. Il faut y retrouver son compte.
Il y a toujours une connexion avec l'enfance même plus tard.
Oui, c'est ça. Enfin, je pense que la passion, elle en prend par moment des coups et c'est difficile de...
Peut-être plus par le contexte de la recherche
exactement,
aussi, qui est quand même super, super compétitif. Quoi.
Exactement. Et c'est difficile. Comme disait Émilie, que ça ne représente pas la majeure partie de notre travail de tous les jours. Il faut le savoir écrire, il faut aimer écrire. On écrit des papiers, c'est en réalité le gros de notre travail. Donc il faut apprécier... passer du temps à écrire les choses, à réfléchir, à discuter avec ses collègues. Et quand on a une bonne équipe, ça peut être encore plus génial et parfois un peu moins fun. Mais du coup, c'est toutes ces choses-là, comme pour tous les boulots, je pense, c'est assez similaire un peu pour tout.
Eh bien parfait, on va rester un peu dans l'enfance dans cette émission, puisqu'on va vous proposer quelques petites pauses au fur et à mesure de cette émission. Alors ce sera des pauses qui ne seront pas musicales, il sera question de création radiophonique et d'un projet mené par Transistor. Et pendant l'année scolaire, un groupe d'élèves de l'école de Saint-Ségal a travaillé toute l'année pour produire des créations en lien avec les sciences de la Terre qui sont désormais en écoute à la Maison des Minéraux dans une très belle cabine d'écoute.
Le voyage de l'aventurier.
Il était une fois un aventurier qui voulait trouver un trilobite vivant.
Il avait décidé de fabriquer une machine à voyager dans le temps.
Plusieurs mois après, sa machine était fabriquée et il a donc voulu l'essayer. Il monta dedans, régla la machine pour un retour en moins 450 millions d'années. Il arriva alors sur la pointe du Goin à Camaret-sur-Mer.
Il dit: heureusement que ma machine à remonter le temps peut faire sous-marin.
Il se mit donc à explorer le fond de l'océan. Après quelques heures de recherche intensive, quelque chose bougea sur sa droite. Il s'approcha.
Victoire ! Il se retrouva nez à nez avec un trilobite vivant.
Bonjour, je m'appelle Tritri.
Bonjour Tritri, je suis un aventurier. Je viens du futur et je souhaitais rencontrer un représentant de ton espèce afin d'en apprendre plus sur vous. Peux-tu m'en dire un peu plus ?
Pas de problème. Nous faisons partie des arthropodes marins. Nous nous déplaçons en rampant au fond de la mer. Nous nous nourrissons de petits vers que nous attrapons avec nos petites pattes.
L'aventurier s'approcha de plus en plus car il souhaitait observer les bestioles d'un peu plus près.
Mais le trilobite eut peur et s'enroula sur lui-même pour se mettre à l'abri dans sa carapace.
L'aventurier dit:
ne prends pas peur, je ne te veux aucun mal, je suis simplement intrigué.
Alors le trilobite déroula sa carapace et l'aventurier put distinguer ses trois parties arrondies. Le tête, le thorax et la partie terminale. L'aventurier lui demande:
c'est dommage, mais j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ton espèce va disparaître dans quelques millions d'années.
Oh non, on ne veut pas disparaître!
L'aventurier amenait le trilobite chez lui et ils devinrent très bons amis. Il était l'unique trilobite à avoir survécu grâce à une machine à remonter le temps. L'histoire se termina bien pour Tritri.
Et nous sommes de retour au festival du centre de la Terre. Oui, ça y est, on a repris. Alors Agnès, est-ce que tu es prête pour la deuxième partie? Là où nous allons parler un petit peu plus mystère de la géologie. Et le pourquoi du comment, à quoi ça sert la géole et les cailloux?
Et oui, parce que donc tous ces cailloux qui nous racontent des choses, enfin qui vous racontent des choses, que vous arrivez à lire dans ces cailloux, est-ce que on a toujours pas percé tous les mystères des cailloux? Est-ce qu'il y a encore des gros mystères en géologie à trouver?
Il y en a plein, sinon après notre métier ne sert plus à rien. Alors ça dépend. Nous on fait, toutes les trois on fait plutôt ce qu'on appelle la géologie fondamentale. Donc vraiment on essaye de reconstruire l'histoire de la Terre et les pans manquants où on a peu de données et quelles étaient par exemple les conditions environnementales à l'archéen. Donc de nouveau à ces temps très anciens entre 2,5 et 4 milliards d'années. C'est encore très obscur puisque les terrains qu'on a, ils sont assez parcellaires, comme je vous l'ai dit, il y a des petits bouts sur chaque continent. Et en plus, ils ont subi plein de processus géologiques pendant ce temps, parce qu'ils sont très vieux, donc ils ont été refondus, replissés, etc.
Ils sont passés au four plusieurs fois.
Exactement, et on les a bien pétris.
Bien au fond de la Terre.
Et bien, pas forcément complètement en pression, enfin en profondeur, mais en tout cas, ils ont chauffé, on les a redéformés. Et tout ça, en fait, ça, c'est comme si ils devenaient amnés. Si vous voulez. En fait, on évacue complètement cette partie de l'histoire, donc on a du mal vraiment à savoir dans quelles conditions. En effet, on sait normalement c'était ce qu'on appelle anoxique, donc il y avait peu d'oxygène, mais on a des données maintenant qui montrent que peut-être il y avait des oasis d'oxygène dont Amandine pourra nous parler dans certains endroits sur Terre. On commence à avoir des données là-dessus. Donc nous, notre but, c'est d'essayer de faire parler cette croûte, ces roches qui sont devenues semi-amnésiques. Et donc, on développe des nouveaux outils grâce à la chimie et à la chimie de ces minéraux qui permettent de dater les roches, qui nous permettent aussi de voir dans quelles conditions elles ont évolué et qu'est-ce qu'elles ont enregistré. Parce que certains minéraux qui sont très résistants à ce pétrissage et à cette température, ils vont quand même résister et ils vont enregistrer quand ils grandissent toute cette partie de l'histoire de la Terre. Donc nous, c'est notre travail vraiment d'aller essayer de voir qu'est-ce qu'il renferme. Et donc les grandes questions, c'est que par exemple, on sait que la Terre s'est formée à 4,5 milliards d'années, d'accord. Mais entre 4,5 milliards d'années et 4 milliards d'années, nous n'avons plus aucun affleurement rocheux. Il n'y a plus de roches qui ont cet âge sur Terre. Donc on ne sait pas du tout.
C'est quoi nos plus vieux cailloux, à peu près ?
Alors, nos plus vieux cailloux, ils ont aux alentours de 4 milliards d'années. 3,96 milliards d'années. Ils se situent au Canada. Et on a un affleurement. Par contre, on a des minéraux qui ne sont plus dans les roches d'origine. D'accord ? C'est un peu compliqué. En fait, vous aviez un continent à l'Adéen.
Ouais. Il a été érodé
à 4 et donc on a des minéraux les plus vieux à 4,4 milliards d'années. Ils ont été érodés, transportés, resédimentés. Voilà. Et ils sont très résistants par rapport au reste de la roche. Donc eux, ils ont survécu à cette histoire très compliquée et très longue. Et c'est les seuls minéraux qui peuvent nous dire quelles sortes de continents, quels étaient les premiers continents, dans quelles conditions on était juste après la formation de la Terre. Et donc nous, notre travail, c'est d'essayer en tant que scientifique d'aller détricoter qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire en fait sur cette histoire. Et donc on est aussi dépendant des avancées technologiques pour l'analyse de ces minéraux. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin et de voir quelles étaient la nature des continents, est-ce qu'on avait potentiellement de l'oxygène, quand est-ce que les débuts de la vie vraiment même microbienne ont commencé. On a encore plein d'incertitudes sur ces moments-là parce que on a ces roches qui ont une histoire compliquée avec des indices parcellaires de l'histoire de cette Terre ancienne.
Vous êtes un peu comme nous, on vous les interviewait. Donc c'est de plus en plus, quand je vous entends parler, les cailloux se personnifient. En fait, vous les écoutez, vous essayez qu'ils retrouvent la mémoire. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait en fait que tous ces indices ou toute cette histoire-là peut être importante pour nous, extérieurs de la science. Qu'est-ce qui fait que nous, on a besoin de comprendre en fait cette histoire, cette vieille histoire de 4 points.
On sort de la géole, on va sur de la philo même là.
Peut-être.
Le sens de la vie. D'où venons-nous ?
C'est un peu les grandes questions. On a besoin de savoir d'où on vient et l'habitabilité de la Terre. Ça a beaucoup à voir avec justement comment la Terre s'est créée, puis comment elle continue à être une planète dynamique. Par exemple, une des questions qui m'intéresse beaucoup également, c'est de comprendre ce cycle de l'eau profond. Par exemple, comment on a encore de l'eau à la surface des océans. Ça, en fait, c'est pas si facile. Il faut avoir de l'eau qui réussit à descendre dans les profondeurs de la Terre pour être stockée et gardée, parce que si toute l'eau était restée à la surface des océans, on n'en aurait plus aujourd'hui, on n'aurait plus de planète habitable. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, par exemple, de comprendre comment l'eau arrive à descendre en profondeur, arrive à se perdre un petit peu dans le manteau, remonter grâce aux volcans. Tout ce cycle de l'eau profonde, on ne peut le savoir qu'avec certains cailloux qui sont descendus en profondeur, qui sont remontés, qu'on peut étudier, savoir comment les roches arrivent à garder un petit peu d'eau jusqu'à grande profondeur. Et ça, c'est très important, ne serait-ce que pour nous, pour l'habitabilité. Mais par exemple, cette eau, c'est aussi ce qui cause un peu de sismicité en grande profondeur, des choses qui nous intéressent aujourd'hui d'un point de vue sociétal. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est ressources aussi, puisque bien sûr, nous, on dépend énormément des métaux. Aujourd'hui, notre stand s'appelle les super pouvoirs des terres rares. C'est parce que tout ça est lié. La façon dont les minéraux grandissent, comment les éléments migrent et sont dynamiques dans notre planète, c'est aussi toutes ces méthodes qui nous permettent de comprendre ou comment elles grandissent et comment on les trouve et qu'est-ce qui est important et tout ça. D'un point de vue sociétal, ça reste de toute façon très important.
Ma prochaine question s'adresse à Amandine. Vos travaux s'intéressent à l'apparition de l'oxygène et de manière indirecte aussi, c'est s'intéresser à l'apparition de la vie sur Terre aussi. C'est ça aussi que ça pose comme question.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens pour l'apparition de la vie sur Terre, parce que c'est pas forcément directement lié à l'oxygène. On aurait eu des tapis, enfin de la vie en tout cas, même qui serait unicellulaire ou ce style de vie, donc des tapis microbiens, donc pas du tout des individus, enfin des quelque chose d'une vie évoluée. Donc ça, il aurait fallu attendre en effet l'apparition de l'oxygène pour avoir l'évolution vers tout ce qu'on appelle les systèmes eucaryotypes, etc. Mais il y aurait de la vie même bien avant l'oxygène. Et en fait, au lieu de faire la photosynthèse, donc comme les arbres ils font aujourd'hui, donc ils font de la photosynthèse oxygénique, donc avec de l'oxygène, mais il y a la possibilité aussi de faire de la photosynthèse anoxygénique, donc sans oxygène, où on va aller utiliser d'autres choses, donc par exemple du sulfure ou que sais-je. Et du coup, à cette époque, il y a bien de la... Enfin, en tout cas, on pense qu'il y a de la vie. Il y a des enregistrements qui disent qu'il y aurait de la vie. Mais...
Sur, à quelle période, du coup?
Donc, je me souviens plus l'âge exact de la première, mais après, c'est de la vie qui reste contestée. Ça, je vous l'accorde. Ça va être des fils... Enfin, des filaments ou ce style de choses, donc qui sont à 3.2. Je crois que c'est un peu plus vieux. En tout cas, moi, je travaille donc ce qu'on appelle dans le groupe de Moody's, qui est sur un craton donc en Afrique du Sud. Et là, on aurait des tapis microbiens à 3,2 milliards d'années, donc qui est extrêmement vieux. Mais ça reste de la vie contestée. Et visiblement, cette vie-là ne respirait pas encore de l'oxygène.
Mais on ne sait toujours pas comment ils sont arrivés là.
Non, on ne sait pas comment ils sont arrivés là.
Il
n'y
a même pas des pistes, des théories, des trucs.
Il y a plusieurs théories. Donc, il y a diverses théories. Par exemple, avec l'arrivée des comètes, où on aurait apporté les briques nécessaires.
Ah oui. La pollinisation aussi, de l'espace.
Par exemple, si on peut dire ça comme ça. Il y aurait aussi, dans le fond des océans, au niveau des systèmes hydrothermaux, où on aurait pu voir la vie apparaître. Et c'est les grandes hypothèses.
Hydrothermaux, c'est un peu comme des volcans sous-marins, ou c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vas-y Agnès, continue.
Oh,
je t'en prie.
Et donc, on a parlé pas mal de l'avancée de la science avec peut-être des nouveaux outils, des nouvelles technologies qui fait que vous pouvez aller encore plus loin dans décortiquer l'histoire. Quels peuvent être ces nouveaux outils que vous utilisez, par exemple?
Alors, par exemple, dans mon cas, j'utilise ce qu'on appelle des spectromètres de masse. Donc, ça va être des grosses machines qui vont prendre toute une pièce et qui vont permettre, en fait, d'aller étudier des éléments vraiment précis et les séparer de manière à faire ce qu'on appelle des rapports isotopiques et voir s'il y avait s'il y a des différences, et tout ça, ça va nous donner des informations sur les conditions et autres. Mais par exemple, Émilie ou Lorraine vont pouvoir utiliser d'autres choses, des lasers ou autres. Je vais les laisser leur en parler.
Alors voilà, suivant sa spécialité, en effet, on va utiliser différents types de machines. Alors nous, comme on étudie la chimie des roches ou des minéraux, on va utiliser des spectromètres de masse pour analyser différents éléments chimiques. Et spécifiquement, pour les minéraux, nous, on va travailler en ce qu'on appelle in situ. Donc on va utiliser des lasers très très performants qui vont aller ablater seulement une toute petite portion du minéral. De l'ordre de 10 microns. On va dire que 10 microns, c'est l'épaisseur d'un cheveu, un peu plus petit même que l'épaisseur d'un cheveu. Et ce petit matériel qu'on a ablaté, notre minéral, va être transporté jusqu'à un spectromètre de masse et on va analyser la chimie de ces phases. On va pouvoir les dater parce que ces phases peuvent avoir, par exemple, de l'uranium. Donc, grâce au système isotopique qu'on appelle uranium-plomb, on peut dater ces minéraux. Donc on va avoir une idée de l'âge, de la de la Terre. Et on va aussi analyser les autres éléments chimiques pour tracer certains processus géologiques qu'on connaît bien. Et donc, suivant la chimie de ces minéraux, on va pouvoir en conclure certaines conclusions.
Pour des cailloux amnésiques, c'est pas mal.
C'est pas mal, non ? Et donc, nous, les verrous technologiques, c'est qu'on va de plus en plus petit. C'est-à-dire, plus on peut aller analyser une fraction petite de notre minéral qui est zoné souvent, donc il va croître comme un tronc d'arbre, et ben plus on va pouvoir être fin dans notre analyse, plus on va pouvoir décortiquer chaque événement qu'a pu subir ce minéral. Donc on a des nouvelles machines maintenant qui sont même capables d'arracher les atomes un à un à un minéral. Alors ça coûte très très cher, ce genre de machine, et typiquement il y en a une qui va être construite dans le cadre d'un gros projet de recherche de financement national à Caen.
D'accord.
Voilà. Et donc on est dépendant de ça aussi pour essayer de trouver des nouvelles choses.
Et à partir de ça, vous racontez des histoires. Vous devez écrire, c'est ça.
C'est comme si on interprète en quelque sorte les minéraux, c'est nos pierres de Rosette en fait. Et nous, on est là pour essayer de traduire. Et mieux on comprend ces processus, mieux on étudie les roches, mieux on les comprend. Mieux on peut comprendre les prochaines. Et c'est ça aussi, la recherche, c'est construire des blocs grâce aux précédents et d'essayer de continuer à avancer et comprendre de mieux en mieux et de plus en plus précisément, en fait, pour pouvoir attaquer des challenges et des défis différents à chaque fois qu'on pensait inatteignables il y a encore 10 ans.
Ouais, parce que on rappelle votre sujet à toutes les deux, Lorraine et Émilie. En gros, c'est pour comprendre un petit peu à quoi ressemblaient les premiers cailloux sur Terre, leur recette minéralogique.
Alors en fait, moi jusque-là, je travaillais beaucoup pour essayer de comprendre ce qui se passe quand les roches sont enfouies en profondeur, ce qu'elles enregistrent pendant la tectonique des plaques, pendant qu'une montagne se forme, et ces minéraux qui enregistrent tout ça.
Pour faire simple, ce qu'elles vont recevoir dans la tronche avec tout le contexte de création d'une roche, quoi.
Exact. Et donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est d'essayer de comprendre ces roches qui sont allées en enfer et qui sont revenues. Qu'est-ce qu'elles ont à témoigner? Qu'est-ce qui était le plus important? Qu'est-ce qui les ont frappées? Voilà, donc c'est plus un processus différent.
C'est
complètement complémentaire. On travaille avec les mêmes outils dans un sens et sur les mêmes processus. C'est juste, moi je travaille aussi sur beaucoup de montagnes différentes, certaines sont récentes, certaines sont très vieilles, mais on essaye de voir si ces processus sont les mêmes. Par exemple, est-ce qu'une montagne se formait de la même façon comme tu disais, pendant l'Archéen ou aujourd'hui, essayer de voir ces différences.
Agnès?
Non, je sais
non,
pas.
Très bien. J'avais une autre question qui suivait, notamment le lien qu'on pourrait en faire aussi avec des questions industrielles, économiques. Ce que vous cherchez, ça peut intéresser aussi l'industrie?
Bien sûr, et d'ailleurs, on en discute beaucoup à notre stand aujourd'hui sur les super pouvoirs des terres rares. On parle...
Qui sera ouvert jusqu'à quelle heure?
Jusqu'à 18h.
Voilà, venez.
Et oui, bien sûr, j'en parlais brièvement tout à l'heure, mais oui, par rapport... Vas-y.
En fait, les processus géologiques... les métaux tombent pas du ciel. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre et aux enfants et aux adultes. Tous les métaux qu'on utilise dans notre vie de tous les jours, dans votre ordinateur, dans votre téléphone, vous avez des métaux. Et ces métaux, ils viennent forcément de notre croûte terrestre. Pas des météorites. Alors, il y a des métaux dans les météorites, mais c'est très, très mineur. Donc, tout ce qu'on extrait vient vraiment de la Terre.
C'est pour Elon Musk, ça? Non.
Et donc tout vient vraiment de la Terre et pour ça on a besoin de les miner. Et donc en étudiant les processus géologiques tels que ceux qu'étudient Lorraine, moi-même ou Amandine, on va étudier la façon aussi dont certains métaux vont se concentrer dans la croûte terrestre. Et en comprenant comment ces métaux ils se concentrent dans la croûte terrestre, on peut aussi dire où on a plus de chances, par exemple, d'en avoir. Nous, c'est pas notre cœur de métier, mais clairement, voilà, ce qu'on étudie permet de comprendre comment on va concentrer ces métaux. Et donc là, en l'occurrence, des métaux de terres rares. Je pense que beaucoup de gens maintenant en ont entendu parler puisque ça fait partie de ce qu'on appelle les métaux critiques, puisque c'est ces métaux de terres rares qui ont permis la miniaturisation depuis les années 90 de beaucoup d'objets technologiques, du téléphone. On est d'accord que les premiers téléphones portables n'étaient pas aussi gros, et c'est principalement grâce aux métaux de terres rares Donc Muriel Vidal, Casey, qui est aussi sur le stand avec nous, elle les appelle les vitamines de la Terre, parce qu'il y en a besoin d'un tout petit peu pour miniaturiser, parce qu'ils ont des capacités magnétiques qui sont en fait très supérieures à n'importe quel autre métal. Et donc les minéraux, nous, qu'on étudie pour répondre à ces questions fondamentales, ils ont tous ces minéraux terres rares de façon très concentrée. Voilà, donc
d'où
forcément
le super pouvoir
des terres rares. Voilà. Et par exemple, dans les éoliennes à l'heure actuelle, au lieu d'utiliser des aimants, on va dire normaux, maintenant on a des aimants de néodyme et ça va alléger énormément le poids des éoliennes. Donc toutes les éoliennes offshore vont avoir ces aimants de néodyme surpuissants et ça va limiter le poids. Et donc maintenant on a besoin, en tout cas pour la transition énergétique, de beaucoup de ces terres rares puisqu'elles permettent de miniaturiser et d'alléger certains métaux, matériaux importants, voilà, dans cette transition.
Et pourquoi on appelle terres rares, si on veut revenir à cette question?
Mais en fait, ils sont pas si rares, ouais.
Ah, alors.
C'est qui va répondre? Moi, j'ai
non, mais en fait, ils sont pas si rares du tout. C'est juste qu'ils ont été assez difficiles à décortiquer dans les roches jusqu'à assez récemment, et donc jusqu'à le début des années 1900, il me semble.
Ouais, 80, ils n'avaient pas encore.
Pas tout, parce que petit à petit, ils ont réussi à les séparer les uns des autres, puisque c'est des éléments qui sont assez proches les uns des autres, donc ils ne vont pas vouloir se dissocier. On va avoir du mal à les trier, à les séparer, à les identifier les uns à côté des autres. Et donc, il a fallu beaucoup de temps pour réussir à les identifier précisément, comparé à la plupart des autres éléments. Et donc, ils sont restés terres rares alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils étaient juste très difficiles à décortiquer.
Oui, ils étaient cachés.
Mais pourquoi? Parce qu'on est en train de se faire la bagarre là-dessus, sur les terres rares. C'est un petit peu une grosse question géopolitique super tendue. Et pourquoi?
Exactement. On en parle un petit peu d'ailleurs aussi sur le stand. C'est aussi un début pour essayer de comprendre les problèmes liés à ces terres rares qui sont fantastiques, qui ont des super pouvoirs, qui d'ailleurs ne sont pas si rares que ça. Cependant, on les exploite seulement dans certaines parties du monde, ce qui pose un problème majeur, puisque on fait très peu de recyclage et pas bien sûr assez d'éco-conception, et tout ce recyclage et l'extraction sont concentrés en Chine principalement, et donc ça pose un problème de taille. Il faut savoir que pour exploiter ces terres rares, ça coûte énormément d'eau. Et tout cela, ça reste un problème pour la...
Il n'y a pas trop de pollution après.
Bien sûr, et c'est bien...
Il y a des lacs d'acide
exactement.
Très connus
et donc,
en Chine.
Ouais. C'est important de le savoir, car tout cela ne se passe pas devant nos yeux. Et le problème, c'est que c'est important de le savoir. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a en discuté.
Je crois un des chiffres sur le stand, c'est donc pour extraire un kilo de lutécium. Donc, il y a 15 terres rares plus deux autres éléments associés. Et donc, pour extraire une de ces terres rares, qui est le lutécium, donc pour extraire un kilo de lutécium, il faut broyer 1200 tonnes de roche. Donc, c'est juste pour que les gens ils soient conscients vraiment que quand on achète son nouveau téléphone, il y a forcément du néodyme, il va avoir un peu d'europium aussi dans la batterie, enfin, etc. Et donc tout ça, ça vient, ça tombe pas du ciel, c'est extrait de nos roches, dans ces minéraux un peu fantastiques aussi dont on discute sur le stand, et que pour les extraire et les séparer, ces terres rares les unes des autres, chimiquement, on a besoin d'une chimie assez agressive et qui se retrouve fatalement dans l'environnement. Donc moins on en extraira, mieux ce sera. Maintenant, on a un pool de terres rares dans nos objets technologiques qui est présent, qui ont déjà été extraits, mais qu'on est incapable de recycler à l'heure actuelle. Donc tout l'enjeu, et surtout au niveau européen, c'est au moins d'essayer de recycler ces terres rares pour essayer et de faire de l'éco-conception. Donc l'éco-conception, t'en as parlé un petit peu, Lorraine, c'est avant de créer un objet, donc par exemple un téléphone, de s'assurer que la plupart des parties est recyclable facilement, ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle. Et comme il y a très peu de terres rares, puisqu'elles sont elles sont extrêmement puissantes, on a besoin de très très peu pour faire un téléphone et le miniaturiser, on a énormément de mal en fait à les séparer du reste. Donc tout l'enjeu des prochaines années, ça va être d'être capable de recycler les terres rares qu'on a déjà dans nos objets technologiques, dans nos ordinateurs ou dans nos téléphones portables.
Et donc, il y a des pistes de recyclage possibles.
Oui, alors l'Union européenne a lancé des gros appels d'offres pour essayer justement de développer ce recyclage. Mais alors, c'est encore, on est au stade de quelques pourcents, je crois, de recyclage. C'est vraiment.
Aussi quand même dire qu'une grosse partie du recyclage se fait en envoyant nos déchets en Chine où ils recyclent, où ils comprennent mieux, où ils font plus de développement pour le recyclage et ils nous renvoient ensuite ces terres rares. Ça a un bilan carbone astronomique. Donc forcément, le but, ce serait d'essayer d'améliorer ces techniques d'une manière un peu plus locale au moins.
C'est l'heure de la pause, mais j'ai encore une autre question. Ah. En lien avec les terres rares, mais pourquoi on les a ici, les terres rares, techniquement, quoi. C'est juste que, voilà, s'il y a trop d'enjeux en matière de pollution, oui, en matière de gestion de l'eau, quoi, ça pose trop de questions, quoi. Donc,
oui. Alors, il y a des mines maintenant qu'on appelle éco-responsables qui commencent à se développer. Alors, nous, les terres rares, économiquement, on en a un petit peu en Bretagne, mais c'est pas viable économiquement. Les mines vraiment viables économiquement, elles sont plutôt dans le nord de l'Europe, où ils sont en Suède, où ils sont en train de vraiment développer des mines où ils font un traitement des terres rares, on va dire bien plus propre que ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais bien sûr, ce traitement, il va avoir un coût. D'accord. Et donc, il faut que les gens aussi qui achètent leurs objets connectés avec des terres rares dedans soient prêts à acheter à un coût supérieur. Voilà, et ça, c'est tout l'enjeu. À l'heure actuelle, nos contraintes environnementales en Europe sont pas les mêmes que dans d'autres pays, comme particulièrement la Chine, parce que c'est le leader sur les terres rares. Et donc, on a vraiment besoin de travailler aussi sur cet aspect-là, mais ça existe, et voilà, ça commence à fonctionner, on va dire.
Eh bien, parfait. On va faire une petite pause. Une petite pause où on retrouve les élèves de Saint-Ségal, et là, ils vont nous parler d'érosion, et on se retrouve juste après pour parler recherche.
L'érosion et le relief.
Je vais vous expliquer l'érosion et les reliefs par une histoire.
Il était une fois un très grand géant et une très grande montagne.
Un jour, le géant décida de grimper en haut.
La montagne était très haute et très grande.
Dans son escalade, il fit chuter des pierres.
Il ne savait pas qu'en grimpant la montagne, il était en train de l'user.
Sous ses pieds, le sol se mit à trembler et de grandes roches se mirent à tomber.
De plus, le vent se mit à souffler. La pluie et la grêle commençaient à tomber. Une tempête s'annonçait.
Les rochers ne cessaient de tomber et le sol ne s'arrêtait pas de trembler.
Puis le soleil apparut, la tempête s'éloigna.
Lorsqu'il se releva, le paysage avait changé. Il était toujours sur sa montagne, mais l'horizon n'était plus le même.
Plusieurs montagnes s'étaient formées.
Il y avait aussi des collines, un grand lac, et au loin, il distinguait l'océan.
L'homme se trouvait sur une île. Le paysage avait changé. Cela avait mis des millions d'années. Et le géant était devenu vieux et avait une très longue barbe. Il se servit de sa barbe pour descendre la montagne en rappel.
Au loin, il apercevait le continent. Pendant cette longue tempête, il se fit une réflexion.
Il constata que la météo modèle depuis toujours nos continents.
L'homme et les animaux façonnent aussi nos paysages ou détruisent certains aspects, notamment par l'agriculture et l'industrie. Mais cela n'est rien par rapport au vent, la pluie, les températures qui sont les agents de l'érosion.
Le sol est un milieu vivant et fragile à préserver. Le saviez-vous? Il y a une journée mondiale des sols le 6 décembre, une fête que notre géant fête tous les ans.
Et nous sommes de retour à la Maison des Minéraux pour le Festival du Centre de la Terre et nous continuons notre émission où nous parlons cailloux et monde de la recherche. Hein? Ça va Agnès?
Ça va toujours,
tu es toujours
et toi
avec nous? Nos invités sont toujours avec nous. Oui, il nous reste un peu de temps pour évoquer quand même Les questions autour de la recherche, vous avez toutes beaucoup bougé, voyagé pour arriver à vivre et travailler autour des roches. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu frustrant peut-être dans tout ça finalement ? Est-ce qu'il n'est pas un peu dommage de devoir bouger à droite et à gauche et qu'au final c'est pas super fastoche de faire une carrière française ?
Je pense que c'est une question assez complexe et la réponse un peu complexe. Et de toute façon, c'est assez subjectif, j'imagine. C'est difficile, ça c'est sûr. Après, comment dire ? Si c'était à refaire, sans hésiter, je referais. Par exemple, moi qui ai bougé un peu partout, qui à certains moments ne savais pas quel petit contrat à aller suivre l'autre petit contrat de recherche, ça a un côté très frustrant, très effrayant. D'un autre côté, ça permet aussi de sortir de sa zone de confort, découvrir des nouveaux pays, des nouvelles équipes, apprendre énormément de choses. C'est aussi tellement enrichissant qu'on y gagne énormément. C'est sûr que c'est très difficile ensuite de pouvoir quand on a décidé que ça y est, on a fait sa hotte pleine d'expérience et de connaissances, on aimerait pouvoir construire, faire sa propre équipe, avoir ses étudiants et construire la nouvelle génération de gens passionnés, et parfois ça prend un petit peu de temps et c'est assez frustrant. La compétition est rude en ce moment, c'est particulièrement difficile, donc c'est sûr que c'est, il y a les deux côtés, je vais dire.
Et pourquoi il y a de la compétition, c'est quoi le contexte compétitif?
Alors le contexte, donc déjà comme l'a dit Lorraine, il y a une grande, alors une fois, donc faut savoir que tout le monde ici est bientôt Amandine, a un bac plus 8, donc un doctorat, donc ça fait déjà 8 années, plus vous avez entendu Lorraine, souvent on fait 2-3 post-docs qui font souvent 2-3 ans chacun.
On arrive à 10 ans.
3 mois, on va nous garder, mais il n'y a pas d'argent.
Voilà, donc tout ça, c'est des petits contrats. Donc c'est vrai que pour se projeter dans le futur, c'est toujours un petit peu difficile. Je dirais qu'au début, comme on est des passionnés, quand c'est au début, on a tellement envie d'apprendre, d'aller dans des nouveaux groupes de recherche qui vont en effet nous apprendre plein de nouvelles choses pour comprendre nos sujets de recherche. On le fait, et à un moment donné, quand vous avez 35 ans, 37, 38, que vous avez toujours pas de poste permanent, que vous commencez à être un peu fatigué de bouger tous les deux ans, clairement, il y a beaucoup de questions qui se posent, et le système de recherche à l'heure actuelle ne permet pas de se stabiliser plutôt que, souvent, pas plutôt que 35 ans, c'est assez rare. Donc voilà, et toutes nos demandes de financement se font sous appel d'offres, il faut le savoir, donc on n'a pas d'argent récurrent.
Et il faut aller le chercher.
Il faut aller le chercher et écrire des projets à chaque fois.
Et c'est à vous de le faire, ça.
Oui, et bien sûr. Ouais. Donc, d'où la grosse compétition. Parce que forcément, moi, je vais écrire un projet, le collègue de l'autre bout de la France va en écrire aussi un, et on va être en compétition directe pour essayer de pouvoir faire notre recherche telle qu'on veut la faire. Et donc, tous les ans, c'est pareil.
Parce que l'enveloppe budgétaire est limitée.
Il va falloir qu'on rende l'antenne tout de suite là maintenant, parce que cette émission est terminée. Le Festival du Centre La Terre continue encore pendant un petit instant. Fermeture des portes en fin de journée, fin de soirée, demain matin.
Oui, les stands, c'est 18h et il y a une soirée après.
Et on remercie nos invités, Émilie Briand, Lorraine Tual et Amandine Mijon. Nous espérons que cette émission aura réussi à vous faire découvrir un petit peu le monde de la recherche et le bien fondé de s'intéresser aux cailloux. Et s'il fallait vous en convaincre, il y a plein de choses à découvrir encore. À bientôt.
Merci.
Merci Fred, à la technique.